Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission du 3 février sur Divergence FM. Bonjour Martin.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, une émission riche encore une fois, même si nous sommes toujours que deux à la présenter. On va tout de suite développer le sommaire.
Oui, alors moi je vous parlerai aujourd'hui d'un film qui est sorti il y a déjà deux semaines, The Book of Eli, des frères Hughes. Je profiterai aussi de ton intervention sur Sherlock Holmes qui sort aujourd'hui pour revenir un petit peu sur les différents visages du détective à travers les ans. Et voilà, je reviendrai vous parler rapidement en tout début d'émission de la fermeture de Miramax qui s'est déroulée jeudi dernier. Je parlerai également des événements à la fin de l'émission. Et voilà, oui. Ce sera tout pour moi.
Alors effectivement, événement, il y aura notamment le dernier film de Tony Gatliffe, donc on écoutera bien la BO de Gaggio Dio, parce qu'on n'a pas la BO de son dernier film. Et puis on parlera aussi de Mascarade, qui est projeté dans le cadre du cinéma algérien, du panorama sur le cinéma algérien. Et puis je vous parlerai du dernier film... C'est le refuge de François Ozon et pas Ozou. Et puis, effectivement, on commencera par Sherlock. Mais avant, donc, Miramax.
Oui, voilà, jeudi dernier, une page de l'histoire des studios hollywoodiens a été tournée avec l'annonce de la vente des studios Miramax Films. Alors, le studio a été créé en 79 par les frères Harvey et Robert Weinstein pour produire des films que les autres gros studios hollywoodiens refusaient habituellement. Donc voilà, pour faire un peu de production indépendante. Ensuite, Miramax a été racheté par Walt Disney en 1993, en laissant une certaine autonomie aux Weinstein qui ont continué à travailler dans le studio. En 2005, par contre, les Weinstein se sont cassés de Miramax suite à un désaccord avec Disney. Les deux frères ont conservé une partie de Miramax sous la forme de la filiale Dimension Film, qui était spécialisée dans l'horreur et dans la science-fiction. Et ils ont fondé à côté de ça la Weinstein Company, dont ils s'occupent encore aujourd'hui. Voilà donc pour ceux qui ont 700 millions de dollars qui traînent sur leur livret A à la poste, le catalogue des 700 films de Miramax n'a toujours pas trouvé d'acquéreur définitif. Donc quelques films en guise de rappel produits par Miramax. Il y a déjà tous les Tarantino jusqu'à Kill Bill. Après Boulevard de la Mort et Inglourious Basterds, ça a été la Weinstein Company. Vous avez d'autres films comme Sexe, Mensonge et Vidéo de Soderbergh, Clerks de Kevin Smith, Scream de Wes Craven, etc. Gangs of New York de Scorsese et même une coproduction avec le No Country for Old Men des frères Coen qui doit être une des dernières productions Miramax.
Il me semblait même que les premiers Coen avaient été aussi produits par Miramax.
Mais alors je ne sais pas, mais je crois pas qu'ils font partie de la filmographie. Peut-être. Hein.
Non, mais c'est peut-être moi qui...
Voilà, si vous achetez le catalogue, vous risquez de trouver quelques pépites.
Effectivement. Allez, on commence avec Sherlock Holmes.
Nous allons entamer tous deux un périple qui altérera l'essence même de la nature. Permettez-moi de vous éclairer. Demain, le monde tel que vous le connaissez finira.
Alors, il s'agit de ne pas perdre un instant.
Réalisé par Guy Ritchie, avec au casting Robert Downey Jr. dans le rôle de Sherlock et Jude Law dans celui du Dr. Watson, ce Sherlock Holmes n'est pas une adaptation fidèle de Conan Doyle, mais d'un comics de Lionel Vigram. Alors aussi, ce Sherlock est débraillé, mal rasé, célibataire endurci, il est surtout très intelligent, plein d'esprit, possède un savoir empirique comme encyclopédique, un sens de l'observation hors du commun, et c'est un as de la baston. Le plus anglais, c'est vraiment son compagnon de toujours, le Dr. Watson, très chic, moral et entiché d'une fiancée, Holmes supporte mal. Il faut dire que le brillant détective est bien seul, avec le chien de Watson qui l'utilise davantage pour faire des expériences in vivo que comme animal de compagnie. Alors l'intrigue repose sur l'affrontement entre Sherlock et Lord Blackwood, homme malfaisant tourné vers la magie noire et qui veut créer un monde nouveau en détruisant l'ancien, forcément.
Très astucieux.
On imagine un plan diabolique réglé comme une horloge à la Big Ben, des courses-poursuites, etc. Alors oui, évidemment, il y a tout cela. Et Sherlock Holmes se montrera donc très astucieux. C'était normalement ce qu'il fallait mettre. Et n'oubliera pas de coller quelques nions.
Premier angle d'attaque, l'oreille droite. Deuxième, la gorge. Troisième, les côtes. En résumé, neutralisation.
Mais viendra à bout des forces du mal, on s'en doute, non, sans expliquer brillamment comment ces forces du mal n'étaient qu'artifices scientifiques. Alors au final, Sherlock Holmes est un divertissement plutôt réussi qui dépoussière ce personnage du 19e siècle. Robert Downey Jr. est souvent dans l'excès, ce qu'on lui demandait, et Jude Law lui donne bien la réplique tout en retenue. Les décors du Londres de l'époque souffrent d'effets numériques trop voyants, il y a peut-être trop de combats, et les images vont parfois trop vite, même si Guirici nous gratifie de ralenti à la Matrix pour quelques scène. Alors la mise en scène met en avant la perspicacité, la curiosité de ce Sherlock Holmes très didactique qui aime faire l'étalage de son don d'enquêteur hors pair en renouvelant des scènes déjà vues mais avec l'explication de Holmes après coup, ce qui change tout. Alors en vitesse réelle, on a l'impression d'être celui qui regarde le doigt plutôt que le soleil qu'il montre et quand le détective nous raconte la scène, eh bien ça y est, le soleil nous illumine. Ce Sherlock Holmes Sherlock Holmes. Pourtant, je m'étais.
C'est pas facile. Hein,
je m'étais un peu entraîné. Tu t'es entraîné, toi, parce que tu vas en parler
ouais,
tout à
ouais,
l'heure.
Ouais, je vais le lire plein de fois. Ouais.
Alors, ce Sherlock Holmes excentrique reste un gros film de studio qui aurait mérité d'être travaillé peut-être un peu plus en finesse. Il n'empêche, on passe un très bon moment. Voilà, et bien donc, il sort aujourd'hui. Il était en avant-première, en revanche, la semaine dernière. C'était du côté de Clermont-Lérault.
Eh bien, on va passer. Alors, on va revenir un petit peu sur toute l'histoire cinématographique de Sherlock Holmes, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit, eh bien, j'attendais chaque mois avec impatience la sortie du Strand Magazine, dans lequel Arthur Conan Doyle publiait les aventures de Sherlock Holmes. Donc, chaque mois, j'économisais les 6 pence que coûtait le journal et je me précipitais sur le premier kiosque venu pour découvrir les nouvelles enquêtes de mon détective préféré. Ah, c'était le bon temps. Et puis, en 1893, ce fut la fin. Conan Doyle fait mourir Sherlock Holmes dans le numéro de décembre, et pour moi, ça a été le pire Noël de toute ma vie. Heureusement, 2 ans plus tard, 2 Français, les frères Lumière, inventaient le cinéma, et je pus me consoler en allant découvrir leur premier film, ce qui fait qu'en 1901, quand Conan Doyle ressuscita son personnage suite à de nombreuses pressions de la part des lecteurs, je n'en avais plus grand-chose à faire. Et puis au fil des ans, il a fini par me manquer, le bon vieux Holmes. Il se trouva donc un jour de l'an de grâce 1905 où, flânant au bord de la Tamise, je fus pris d'une forte envie de renouer avec mes lectures d'antan et je décidai d'aller acheter le dernier exemplaire du Strand. Donc je hélai un fiacre pour qu'il me conduise au kiosque le plus proche, mais sur la route, nous passâmes à côté d'un théâtre sur lequel s'étalait une affiche gigantesque qui annonçait la projection d'un spectacle cinématographique intitulé « Les aventures de Sherlock Holmes » avec Maurice Costello dans le rôle-titre. Et c'est ainsi que je découvris pour la première fois Sherlock Holmes au cinéma. Donc 105 ans plus tard, le personnage est toujours à l'affiche, dans le nouveau film de Guirici dont Vincent vient de nous parler. Et moi, toujours bon pied bon œil malgré le poids des ans, je me propose de faire avec vous un petit survol des différents visages qu'a pris Sherlock Holmes dans ses multiples apparitions sur celluloïd. Alors je voulais découper ce grand dossier en 93 parties, ce qui m'aurait occupé jusqu'en 2015. Mais bon, Vincent a mis le haut là, je vais donc me pencher que sur les interprètes les plus intéressants du détective. Même si j'aurais bien aimé vous parler en détail de certaines petites pépites alternatives, comme ce film porno de 1989, délicatement intitulé « Des pipes pour Sherlock Holmes ». Voilà, les amateurs apprécieront le jeu de mots. Alors il faut savoir que selon certains, Sherlock Holmes est le personnage qui a été le plus souvent adapté au cinéma, devant Dracula, devant Frankenstein, Napoléon ou même Jésus. Et de son vivant, Conan Doyle aura eu par exemple la possibilité de contempler son personnage à l'écran dans une 60aine de films. Donc au total on peut recenser plus de 250 films de cinéma ou de télévision qui le mettent en scène. Donc le premier interprète notable du détective fut Francis Ford. Alors pourquoi notable, me direz-vous, vu que le comédien est tombé complètement dans l'oubli ? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit du grand frère de John Ford, voilà, le célèbre réalisateur de La Poursuite Infernale et de Rio Grande, qui d'ailleurs incarnait dans ce film de 1914 le rôle du docteur Watson. Mais bon, le premier à s'être véritablement imposé en Sherlock Holmes, ça a été bien sûr Basil Rathbone, un acteur plutôt habitué au rôle de méchant, mais bon, qui avec ce personnage s'est durablement inscrit dans la mémoire des spectateurs. Alors, il va interpréter à 14 reprises le détective entre 1939 et 1946 dans des adaptations pas toujours très fidèles de l'œuvre de Conan Doyle. Donc, tourné en pleine Seconde Guerre mondiale, ces films présentent la plupart du temps Holmes et Watson en train de participer à la lutte contre les forces de l'Axe, incarné par un Moriarty nazi, alors que les intrigues originales sont bien sûr censées se dérouler au 19e siècle. Alors quelques années plus tard, c'est Peter Cushing qui endosse la casquette et la pipe du grand détective dans Le Chien des Baskerville, un film réalisé par Terence Fisher en 1959. Et bon, pour cette énième adaptation du célèbre roman, Peter Cushing va retrouver son partenaire Christopher Lee, avec qui il partageait l'affiche des Frankenstein et des Dracula de la Hammer, Christopher Lee, donc dans le rôle de Henry Baskerville.
Sir Henry, je vous présente donc Monsieur Sherlock Holmes, le docteur Watson, Sir Henry Baskerville.
Docteur Watson, Monsieur Holmes.
Enchanté, Sir Henry.
Je suis heureux de votre visite. Messieurs, essayez-vous.
Merci.
Alors, Monsieur Holmes.
Le docteur Mortimer a dû vous expliquer pourquoi il a sollicité notre visite.
Oui, et je dois vous avouer que je considère qu'il s'est peut-être un peu trop hâté en requérant votre aide.
Oh, il voulait surtout, j'en suis sûr, protéger vos intérêts. Est-ce qu'il vous a raconté la légende du chien des Baskerville?
Oui, mais je n'attache aucune sorte d'importance à ces contes de vieilles sorcières.
Ah, j'aime bien les hommes courageux. Vous comptez vous rendre dans le Devonshire et vivre à Baskerville seul?
Je suis venu de bien loin, voyez-vous, Monsieur Holmes, dans cette intention. Et je n'y renoncerai pas. Je suis sûr que vous le comprenez.
Une chose est certaine, Sir Henry. N'allez sous aucun prétexte dans le Devonshire seul.
Oui, mais ceci est prévu. Le docteur Mortimer m'accompagne.
Le docteur Mortimer est très pris par ses malades.
Je saurais être prudent, Monsieur Holmes.
Je voudrais bien vous faire comprendre que votre vie court un terrible danger.
Écoutez, monsieur, si vous attachez une pareille importance à ce danger, pourquoi ne pas venir à Dartmoor avec moi aujourd'hui? Préparez vite une valise avant le départ du train.
Non, je suis désolé. Il est impossible que je quitte Londres avant 3 jours d'ici. Watson, vous êtes libre en ce moment, n'est-ce pas?
Pourquoi? Oui, je suis libre. Si vous croyez que je sois utile là-bas...
Vous êtes l'homme qu'il nous faut, ça arrange tout. Vous les accompagnerez. Nous correspondrons par télégramme. Sir Henry, je ne suis pas homme à sous-estimer un danger, mais je veux insister sur un point essentiel. Sous aucun prétexte, ne vous aventurez seul en pleine nuit sur la lande.
Hein, parfait. C'est entendu, je ferai ce que vous désirez pour le moment. Mais je ne suis pas très convaincu qu'un détective puisse m'être d'une grande utilité. Si ce n'est pour trouver mon deuxième soulier.
Voilà, donc un petit échange entre Peter Cushing et Christopher Lee dans ce film Le Chien des Baskerville de 1959. Alors en 1962, petit retournement de situation, c'est Christopher Lee lui-même qui s'empare du personnage dans une nouvelle production Hammer. Donc c'est Sherlock Holmes, c'est le collier de la mort. Et c'est à nouveau réalisé par Terence Fisher. Donc nos deux acolytes reprendront plusieurs fois au cours de leur carrière respective la défroque du détective, mais toujours pour la télévision. Donc en 1968, Peter Cushing participe à 16 épisodes d'une des innombrables séries télé tirées des œuvres de Conan Doyle, puis il incarnera une dernière fois le personnage en 1984 dans le téléfilm Les Masques de la Mort. Et quant à Christopher Lee, il reprendra le flambeau dans deux téléfilms réalisés au début des années 90. Alors on va passer maintenant à un autre comédien qui est considéré par certains comme le Sherlock Holmes ultime. Il s'agit de Jeremy Brett, qui entre 1984 et 1994 a incarné de nombreuses fois le personnage dans plusieurs séries de téléfilms. Donc avec son visage anguleux, sa carrure impressionnante et son interprétation du détective plein d'arrogance, d'enthousiasme et de soif de justice, Jeremy Brett a réussi le pari de moderniser ce héros tout en conservant ce qui faisait le charme des écrits de Conan Doyle.
C'était quoi ce soir? Morphine? Ou cocaïne?
Eh bien, j'ai fait l'essai d'une solution à 7% de cocaïne. Voulez-vous l'essayer?
Non, merci. Je vous parle non seulement en médecin, mais aussi en ami. Comment risquer consciemment de causer de tels dommages à une pareille puissance intellectuelle? C'est incompréhensible.
Il y a quelque chose qui clarifie et stimule l'esprit.
Oui, et qui peut le détruire. Et vous le savez très bien.
Mon esprit se rebelle contre la stagnation. Confiez-moi donc les problèmes les plus complexes. Confiez-moi les plus obscurs cryptogrammes, les plus étranges intrigues à dénouer. Je m'y retrouve dans mon propre domaine, où je me dispense de faire appel à tous ces stimulants. Mais j'aborde la triste routine de l'existence. J'ai besoin d'une exaltation mentale. C'est pourquoi j'ai choisi ce genre de profession. Je devrais dire qu'il est créé puisque j'en suis le seul et unique représentant.
Le seul et unique détective non officiel.
Le seul détective consultant non officiel. Je ne tire aucune gloire de mes succès. Le problème à résoudre, le plaisir de mettre mes dons à l'épreuve des faits sont ma seule récompense. Vous pouvez refermer le tiroir. Vous avez commis une erreur de diagnostic, docteur. J'ai gardé mes stimulants sur moi.
Un petit extrait donc qui nous rappelle la toxicomanie de Sherlock Holmes et puis cette pulsion, ce désir profond de toujours être stimulé intellectuellement. Donc voilà, Jeremy Brett, dans plusieurs téléfilms, il y a eu les mémoires de Sherlock Holmes, les aventures de Sherlock Holmes. Peut-être toi qui devais regarder la télé à cette époque, tu en as vu, Vincent ?
Absolument pas.
Non, bon. Mais c'est vrai que le personnage est presque plus crédible voilà, que Peter Cushing, qu'on a déjà vu dans les films Hammer. En tout cas, Jeremy Brett, il a réussi à donner une étoffe assez particulière à Sherlock Holmes. Donc ça, c'était pour les comédiens qui ont incarné donc, Holmes dans une perspective de fidélité avec l'œuvre littéraire. Mais bon, le détective a également fait l'objet de nombreuses parodies, variations et autres révisions au cours de sa longue filmographie. Donc l'une de ces visions particulières du personnage, on la doit à Billy Wilder, qui, dans La vie privée de Sherlock Holmes, propose à Robert Stephens d'incarner un Sherlock Holmes dépressif, toxicomane et dont l'ambiguïté sexuelle est au centre d'une bonne partie du film. Donc si nous sommes très loin du canon et que Wilder s'amuse plus avec les personnages qu'il ne les transpose fidèlement, La vie privée de Sherlock Holmes réserve quand même suffisamment de bonnes surprises pour qu'on y jette un œil. Alors deux choses rapides à propos de ce film. Déjà à signaler que le projet était bien plus ambitieux que ce qu'il n'est devenu en réalité. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, la genèse du projet, vous pouvez la retrouver sur Internet, par exemple. Et à noter également que Christopher Lee revient visiter l'univers holmésien en incarnant dans le film Mycroft Holmes, donc le frère de Sherlock Holmes. Ensuite, dans un tout autre genre, un procédé qui a souvent séduit les scénaristes était de rajeunir le personnage pour le mettre en scène pendant sa jeunesse ou pendant son adolescence. En 1982, une courte série intitulée Young Sherlock voit le jour. 20 ans plus tard, l'idée continue de plaire et le film Sherlock, la marque du diable, qui met en scène un détective à peine trentenaire, sort directement en vidéo avec James Darcy dans le rôle principal. Mais bon, la plus célèbre de ces versions junior du personnage reste évidemment Le secret de la pyramide de Barry Levinson, produit par Steven Spielberg en 1985, avec Nicolas Roux dans le rôle de celui qui n'est encore qu'un apprenti détective.
Vous êtes le nouveau ?
En effet, j'étais dans une autre école, on m'a transféré ici. Je m'appelle...
Attendez, permettez. Vous vous appelez James Watson. Vous venez du nord de l'Angleterre, votre père est docteur, vous passez une grande partie de votre temps libre à écrire. Et vous avez un penchant assez prononcé pour les gâteaux au flan. Je me trompe ?
Je ne m'appelle pas James, mais John.
Oh, James, John, quelle est la différence ?
Elle est énorme.
Ah bon, très bien, vous vous appelez John. Et qu'en est-il du reste ?
Parfaitement exact, sur tous les points. Vous avez un truc, c'est un tour de passe-passe ou de magie ?
Non, ce n'est pas de la magie. J'ai procédé par déduction. Votre matelas est pourvu d'une étiquette au nom de J. Watson. J'ai opté pour le prénom le plus répandu commençant par un J, James, ou John sur lequel j'aurais porté mon choix en second.
Bien sûr.
Le modèle de chaussures que vous portez n'est pas fabriqué dans la capitale. Je ne l'ai rencontré qu'une fois lors d'un bref séjour dans le nord de l'Angleterre. Au majeur de votre main gauche, on voit nettement une callosité, ce qui est la marque de fabrique d'un écrivain. Et vous avez avec vous le dictionnaire médical de Hunter, un manuel qui n'est pas à la disposition du grand public, qui est réservé aux praticiens. Quelqu'un de votre âge ne peut avoir achevé ses études médicales. J'en ai conclu qu'il vous avait été offert par une personne plus âgée, une personne qui vous est très proche et qui s'inquiète de votre santé. Votre père, qui est docteur.
Et les gâteaux au flan ?
Très simple. Il y a une tache distincte de flan jaune sur votre revers. Cette couleur de crème n'est utilisée que pour la confection des gâteaux au flan. Votre silhouette m'a convaincu que ce n'était pas le premier que vous aviez mangé.
Il est inutile de manquer de tact.
Venez, nous n'avons pas toute la journée.
Pourquoi ? Mais où allons-nous ?
Vous ne voudriez tout de même pas rater le cours de chimie ?
Au fait, comment vous appelez-vous ?
Holmes. Sherlock Holmes.
Petite démonstration donc des capacités hors du commun de déduction de Sherlock Holmes, même à 16-17 ans, il était déjà incroyable, il était déjà arrogant également. Donc pour en finir avec ce survol forcément incomplet hein, des différentes incarnations de Sherlock Holmes au cinéma, citons rapidement quelques autres comédiens qui lui ont prêté leur trait, donc Roger Moore, Christopher Plummer, qu'on a vu récemment dans l'Imaginarium du docteur Parnassus, Rupert Everett, Jonathan Pryce, Michael Caine et même Charlton Heston qui, à 67 ans, enfile la cape du détective dans un téléfilm américain. Bref, pour tous ceux qui pensaient que Robert Downey Jr. allait dénoter en Sherlock Holmes, eh bien, n'oubliez pas qu'il arrive après des dizaines d'autres comédiens qui se sont essayés avec plus ou moins de bonheur au difficile exercice de donner corps à l'immortel personnage inventé par Arthur Conan Doyle. Même Leonard Nimoy, le Spock de Star Trek, s'y est essayé, c'est dire.
Oui, bah ça devait être un autre style que Robert Downey Jr. Hein.
Oui.
Enfin, il faut dire quand même que par rapport à tout ce que tu viens de dire et les extraits qu'on a entendus, c'est vrai que l'ambiance du film de Guy Ritchie est totalement différente. C'est survitaminé, effectivement beaucoup de bastons. Après, la relation entre Watson et Sherlock Holmes est toujours présente, effectivement, avec un Sherlock Holmes très excentrique et un Watson très, très
sérieux,
plutôt rigide, oui. Et ainsi de suite, hein, un docteur quand même. Et puis, voilà. Et puis après, ses capacités intellectuelles sont très, très mises en avant, mais autant que celles de la baston, hein, pour la baston, en tout cas. Eh bien, merci. C'était copieux.
Oui, bah, y a de quoi faire. Hein. 200 films et quelques. Vous pouvez passer un an entier, à raison presque d'un film par jour. Il n'y a que du Sherlock Holmes.
Alors, avant de retrouver une petite chronique sur le dernier film de François Ozon, Le Refuge, on va faire une pause et je te laisse la présenter.
Oui, bah alors c'est une pause qui n'a pas grand-chose à voir avec le dernier film de François Ozon, j'imagine. On va écouter un petit morceau de speed metal à l'occasion de la sortie en salle du documentaire Anvil, The Story of Anvil, de Sacha Gervasi. Donc un documentaire qui revient sur le parcours de ce groupe de speed metal qui a débuté sa carrière en 78 et qui, eh ben, malgré les 13 albums sortis à ce jour, n'est jamais devenu aussi célèbre que d'autres groupes qu'il a fortement influencé comme Metallica. Donc on écoute, ça s'appelle The March of Crab. Voilà, la marche des crabes par Anvil, le bonheur de la double pédale à la batterie. Voilà, du speed metal, donc pour célébrer la sortie en salle du documentaire de Sacha Gervasi, Anvil, The Story of Anvil, que vous pourrez aller découvrir dès aujourd'hui, entre autres au Diagonal.
Oui, entre autres, hein, parce qu'en en fait, il est projeté visiblement dans seulement 12 cinémas en France, ah. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein.
Il y a donc, peut-être très peu de copies. Et...
Oui, voilà. Ouais. Donc exclu hein, du côté de Montpellier pour cette grande histoire du métal. On passe donc au dernier film de François Ozon. Le Refuge est son dernier long métrage après le très moyen Ricky l'an dernier qui racontait l'histoire étrange d'un petit garçon dont les ailes lui poussaient dans le dos. Ici, l'enfant ne naîtra pas ou à la toute fin et sera surtout présent, enveloppé dans le ventre de sa mère, une certaine Mousse, interprétée par Isabelle Carré. Alors Mousse est enceinte de Louis, un père absent, et pour cause, il meurt d'une overdose dans un somptueux appartement parisien. Louis est issu d'une famille de la haute bourgeoisie. Louis ne savait même pas qu'il était père, et Mousse l'apprend suite à son hospitalisation, car elle aussi tâtait de l'héroïne. Alors la famille ne veut pas de cette descendance sans père, Mousse décide alors de quitter Paris et son hiver, et on la retrouve l'été, dans le Pays Basque, dans une vieille maison. Loin de tout, lunettes noires et froides, elle accueille un visiteur. Ce visiteur, c'est Paul, le frère de Louis, qui était de passage dans le coin avant de rejoindre l'Espagne. Tout le monde est oisif dans le film, et puis là, en plus, c'est l'été.
C'est une maison de famille ?
On peut dire ça.
C'est-à-dire ?
Elle appartient à un vieux mec avec qui je couchais quand j'avais 16 ans. Il se prend pour mon père.
Je vois. Et il sait que t'es enceinte ?
Non. Je rends compte de rien et à moitié aveugle. Quoi ? Tu me trouves grosse ?
Non, c'est juste ta manière de dire ça qui me fait marrer. Et il connaissait Louis ?
Écoute, j'aime pas trop les interrogatoires. Alors ok, je veux bien que tu dormes ici quelques jours. Je suis une fille sympa, polie, mais s'il te plaît, tu me fous la paix, tu poses pas de questions. D'accord ?
Excuse-moi, je voulais pas te...
Non, arrête de te tromper, on est des adultes, ça va.
Ah oui, il peut souffler. Alors on l'entend, elle n'est pas très sympa, Mousse, alors que Paul, lui, il est tendre, naïf, une sorte de double de son frère mort, si ce n'était son homosexualité qui venait semer le trouble. Cette intrusion aura bien sûr des conséquences. Mousse va se détendre petit à petit, briser son refuge basque et s'ouvrir à Paul avec les mots, les attitudes. Alors il y aura une scène troublante à la Ozon où Mousse rencontre un homme qui n'aime que les femmes enceintes. On est parti pour un moment sexuel un peu déroutant et finalement on voit autre chose, une de ces scènes comme seul le cinéma. C'est en fabriqué, on est dans une ambiance et on part très vite dans une autre en quelques plans. Alors non, l'instant sexuel ou sensuel interviendra plus tard, sans réelle surprise d'ailleurs, mais toujours avec cette émotion. Ces moments sonnent comme une révélation pour la mère. Pendant qu'elle y est, elle se remboîte. Après tout, être enceinte pour une femme avec 8 kilos de trop, c'est pas une maladie. Alors sur la plage non plus, elle ne se cache pas. Et du coup, elle rencontre une femme, une mère qui la met en garde.
Excusez-moi de vous déranger. Je vous regarde depuis un moment et je voulais vous dire, je trouve magnifique.
Oh, ben merci.
Ça, c'est tellement rare, les femmes enceintes sur la plage. Et vous, vous avez l'air tellement épanouie.
Ah bon ?
Oh oui. C'est étrange, hein ?
Le corps qui se transforme, les petits mouvements qu'on ressent à l'intérieur du ventre.
Des fois, ça fait peur, non ?
Bon, au début un peu, mais maintenant ça va.
C'est bien, il ne faut pas avoir peur. Parce que les femmes qui ont peur, ça fait des enfants qui vont avoir du mal à affronter la vie.
Vraiment ?
Oh oui. Tout se joue bien avant l'accouchement, vous savez.
Vous lui parlez ?
Non, je pas spécialement, non.
Je peux toucher votre ventre ?
Si vous voulez,
oui.
Alors, il faut lui parler, hein. Il faut lui dire tous les jours que vous l'aimez. Que vous l'attendez.
Ah, puis il faut lui prévenir aussi que vous allez avoir mal pendant l'accouchement.
Mais que cette souffrance, ça sera votre cadeau pour lui.
D'accord, mais j'ai pas envie de souffrir, moi.
Il faut l'accepter, cette souffrance.
Merci de vos conseils, mais je vais continuer à marcher.
Écoutez-moi. On doit tout leur donner, même si après, ils vous quittent, ce sont des ingrats.
Mais ça suffit maintenant, foutez-moi la paix.
Mais même si après, ils vous quittent, vous êtes tout foutu, on est partout.
Voilà, scène peut-être un peu artificielle. On remarque encore au passage que le cinéma français, on est à côté de l'océan, eh bien, on va faire en sorte que le son soit plein de vagues, hein, alors qu'il pourrait s'en abstenir un peu. Alors, ce que dit la femme, en fait, il faut tout leur donner, même si après, ils nous quittent et ainsi de suite. Ça, c'était vraiment le thème de son précédent film, Ricky. Alors, Mumouse vit une maternité très singulière à tel point qu'on se demande pourquoi elle garde cet enfant si elle en mesure les conséquences. Alors, elle fonctionne à l'instinct, se lie de plus en plus à Paul, un père probable s'il n'était pas attiré par un homme. Le refuge basque est troué, mais ça n'est pas bien grave, car le refuge dont il est question ici, c'est le ventre de la mère. La force du film est à trouver dans la complaisance à montrer le corps d'Isabelle Carré, qui était vraiment enceinte pendant le tournage, et peu de films se sont attardés à de pareilles images. Alors l'après, on le voit à la toute fin du film, il donne un éclairage sur l'heure et demie qu'on a passée, aux côtés d'une femme d'abord torturée, fermée et qui se libère petit à petit. Un personnage qui sonne bien mieux que celui du frère, interprété par Louis Ronan Choisy, qui est parfois vraiment, me semble-t-il, à côté de la plaque. Alors il faut bien le dire, ça ne suffit pas toujours d'avoir une belle gueule. Et c'est comme ça qu'il a été choisi pour le casting, à mon avis. Donc, Le Refuge est projeté notamment au Diagonal, et il est sorti déjà la semaine dernière.
Alors, on va passer à quelque chose de totalement différent, puisque je vais vous parler un petit peu du livre d'Eli. Alors, l'année 2009 aura été plutôt chargée en apocalypse cinématographique et autres visions de fin du monde à caractère informatif post-Grenelle de l'environnement. En février, une bande de Japonais énervés nous cueillait d'entrée avec Evangelion 1.0, dans lequel notre petite planète était violemment percutée par un astéroïde, puis attaquée par des créatures gigantesques. Peu après, Alex Proyas nous proposait un joli poisson d'avril avec ses prédictions pas vraiment convaincantes et son soleil bien décidé à transformer la Terre en barbecue géant. Et puis ça a continué comme ça toute l'année entre les films sur la pandémie grippale du genre Mutant de David Morley ou Bienvenue à Zombieland de Ruben Fleischer et les films avec des méchants robots qui foutent le bordel, Terminator Renaissance de McGee ou Numéro 9 de Shane Hacker. Et bien 2009 aura été l'occasion de faire le tour de la question de façon quasi exhaustive, vu qu'on est quand même passé du petit film français intimiste avec Les Derniers Jours du Monde au feu d'artifice décomplexé à 200 millions de dollars avec 2012. Voilà, l'année s'était par ailleurs finie en beauté avec l'adaptation sur grand écran de La Route de Cormac McCarthy par John Hillcoat, qui nous proposait une vision bien noire et bien pessimiste de l'après-fin du monde. Donc un genre cinématographique qu'on appelle le post-nuke en anglais. Donc nuke veut dire une ogive nucléaire, donc après la bombe plus ou moins. Et voilà, donc un genre dont le plus beau fleuron reste encore aujourd'hui le Mad Max 2 de George Miller. Mais bon, le problème, c'est que eh bien, La Route était avant tout un film intimiste, un film plus que noir qui retraçait le pénible combat d'un père et de son fils pour survivre misérablement dans un monde devenu sinistre et hostile. En clair, certains spectateurs qui s'attendaient à un débarquement de punk hirsute sur des belles motos chromées, à des affrontements en plein désert nucléaire pour un bidon d'essence ou une femme, et à un héros aussi charismatique, si ce n'est plus que Mel Gibson dans ses vertes années, eh bien les spectateurs qui s'attendaient à ça ont été quelque peu déçus. Alors heureusement, Hollywood veille au grain, et là où il y a des spectateurs mécontents, il y a un manque à gagner. Donc avant même d'être sorti en salle, La Route était donc déjà candidat à un pseudo-remake édulcoré, où tout ce qui pouvait gêner ou poser problème dans le film de Hillcoat avait été reformaté, raboté, pour satisfaire au public adolescent. Il y a donc deux semaines maintenant est sorti en salle le Livre d'Eli, un film signé Albert et Allen Hughes, donc deux frangins qui s'étaient fait remarquer en 2001 avec leur deuxième film From Hell avec Johnny Depp, donc une adaptation d'une bande dessinée scénarisée par Alan Moore. Et voilà, troisième film, le Livre d'Eli. Donc dans ce film, les humains ont encore une fois réussi à pourrir leur belle planète bleue et à la transformer en un désert où il ne fait pas bon vivre du tout. Et au milieu de ces paysages dévastés, un homme se dresse seul face à l'adversité. Il est fier, il a un vieil iPod dans les oreilles, il est plutôt bien sapé avec son keffier et ses lunettes de soleil qui brillent. Et il traverse les États-Unis d'est en ouest pour prêcher la bonne parole et au passage corriger à grands coups de machette toute cette racaille qui profite de la fin du monde pour s'en mettre plein les fouilles. Donc dans ce rôle de messie samouraï chargé de nous délivrer du mal, Denzel Washington en impose, même s'il se ménage un peu plus que dans les quelques bons films dans lesquels on l'a vu apparaître. Il reste assez loin des performances qu'il a pu donner, par exemple pour les frères Scott. Donc face à lui, vous avez Gary Oldman qui arrive pour une fois à ne pas cabotiner de façon hystérique, même si certains de ses tics les plus gênants resurgissent de temps à autre. Et quant au reste du casting, les réalisateurs ont fait appel à quelques gueules de cinéma qui viennent faire leur numéro, donc de Tom Waits à Malcolm McDowell, en passant par Michael Gambon, donc le Dumbledore des Harry Potter. Et finalement, la plus grosse erreur de distribution, ça reste le personnage féminin, Mila Kunis, qui vient balancer son visage de poupée et sa plastique de bimbo au milieu de cet enfer avec une décontraction et un décalage assez navrant. Un journaliste du Times a dit d'elle qu'on avait l'impression qu'elle sortait d'un salon d'épilation de Beverly Hills. Et c'est un peu ça, parce que dans les scènes finales, on a presque l'impression d'assister à un nouvel opus de la saga Resident Evil, mais sans l'incommensurable talent et le charisme presque divin de Mila Jovovich. Mais bon, le défaut principal de ce film, c'est son scénario, c'est cette histoire de chevalier des temps postmodernes qui défend au péril de sa vie un ultime exemplaire de la Bible face à un méchant qui veut s'en emparer pour instaurer une nouvelle dictature religieuse. Eh bien, cette histoire n'est pas seulement nauséabonde avec sa morale néoconservatrice, limite bouchiste, mais elle plombe en plus le bon déroulement de cette aventure qu'on aurait aimé un peu plus décérébrée et un peu plus jubilatoire, et surtout moins chargée de symbolisme chrétien. En fait, en se voulant être une critique de tous les fanatismes religieux, le livre d'Élie finit par s'empêtrer dans une imagerie et dans un discours prémâché qui fleure méchamment le prosélytisme. Alors heureusement, les frères Hughes savent fabriquer de belles images, ils arrivent à instaurer une certaine atmosphère et à mettre en scène des visions d'apocalypse qui marquent l'œil, même si elles ne sont pas particulièrement originales. Et oui, on a déjà vu la même chose il y a 2 mois dans La Route. Donc, parallèlement à cette maîtrise de la photographie et de l'utilisation du numérique, puisqu'il faut savoir que la plupart des extérieurs ont été retouchés sur ordinateur, alors que justement dans La Route, par exemple, ça avait été tourné du côté du Mont Sainte-Hélène, qui est encore bien, bien touché par cette vieille éruption. Donc là, les frères Hughes ont retouché numériquement les paysages du Nouveau-Mexique dans lesquels ils ont tourné leur film. Donc face à cette maîtrise, je disais, de la photographie, et aussi des effets spéciaux, les réalisateurs par contre usent et abusent un peu trop d'effets de montage et de ralentis pachydermiques qui viennent parfois gâcher certaines chorégraphies de combat qui auraient gagné en spectaculaire si elles avaient été traitées avec un peu plus de simplicité. Donc voilà, pas grand chose à sauver de ce film qui brasse avec une générosité parfois complaisante de nombreuses références qui vont des post-nuke mythiques comme Mad Max ou comme A Boy and His Dog, en passant par les westerns de Léon et jusqu'au Shambara, au film de sabre japonais. Voilà, donc, quant à ceux qui seraient restés scotchés à leur fauteuil jusqu'au dénouement, ils auront droit à un twist final tellement énorme qu'il en devient presque intéressant. Je laisse aux plus motivés le soin de revoir le film avec cet éclairage final pour vérifier s'il est cohérent sur toute la durée du métrage, ce dont personnellement je doute fortement, mais bon, laissons au réalisateur le bénéfice du doute. Voilà, donc pour tous les spectateurs qui ont été repris un peu à rebrousse-poil par John Hillcoat et qui veulent se replonger avec délice dans un vrai bon film post-apocalyptique, je vous conseille plutôt de vous louer Mad Max 2 ou donc A Boy and His Dog que j'ai cité tout à l'heure en DVD. Et si vous êtes un esthète, vous pouvez carrément taper dans les bons nanars du genre comme 2019 après la chute de New York de Sergio Martino. Voilà.
En tout cas, si vous voulez vraiment aller voir le livre d'Elie, il est projeté en VF au Gaumont Multiplex. Il n'y a que cette salle qui en veut. On passe au quiz maintenant. C'est un quiz. Alors, ce quiz va concerner les génériques, parce que quelle est la part de graphisme dans un générique de début, voire de fin ? Eh bien, c'est plutôt total, hein, le plus souvent. Comment apparaissent les titres de films durant les génériques ? C'est ce qu'a choisi de mettre en avant un graphiste néerlandais, Christian Agnès. Et il propose sur son site agnès.com, donc A-2-N-Y-A-S.com, des captures d'écran de longs métrages de l'histoire du cinéma. Alors ça commence par les Buster Keaton et s'achève avec Sideways, Oldboy ou Shaun of the Dead. Alors ce qui intéresse l'auteur, c'est ce que raconte une typo sur ce qu'on va voir. Alors quel choix de typo, quelle taille de police, y a-t-il une image, est-ce davantage un dessin ou on se contente d'inscrire le titre en blanc sur fond noir. Et le site fourmille d'exemples. Il y a même deux sections spéciales, l'une concerne le western et l'autre le film. Film noir. Alors pour ces derniers, l'auteur du site se plaît à ajouter des captures d'écran du fameux The End qui a maintenant quasiment disparu. On le retrouve de temps en temps sur quelques films. Alors il est certain qu'il y a un film que Agnès n'a pu placer sur son site. Alors je te pose la question, Martin, de quel film s'agit-il ?
Un film qu'il n'a pas pu placer.
Qu'il n'a pas pu placer parce qu'il n'y a pas de générique.
Ah, je sais pas, il y en a plusieurs sans doute.
C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je te demande le plus connu peut-être.
Je serais incapable de répondre.
Eh bien, c'est Apocalypse Now de Coppola, hein, qui jouit d'une sorte de pré-générique sur les Doors et dont le titre n'apparaît que tard dans le film sous forme de graffiti.
D'accord. Voilà,
pas de générique pour... Alors, dans une idée moins restreinte que Agnès, on peut aussi faire un tour sur watchthetitles.com. C'est en un seul mot, qui rassemble une centaine de génériques marquants. Mais là, peu importe la qualité du dit film. Alors, à ce petit jeu du générique ou de la typo, les Américains ou un Almodovar sont plus fantaisistes que les Français. Mais on peut regarder l'Irréversible de Gaspard Noé monté à l'envers. C'est un générique monté à l'envers. Donc, générique de fin de haut en bas au début du film. Ou encore le Délicatessen et l'Amélie Poulain de Genet. Mais on s'aperçoit tout de suite qu'on est parmi des réalisateurs qui sont plutôt formellement audacieux. Sinon, les autres se contentent eh bien, souvent de faire apparaître le chef opérateur, les acteurs et ainsi de suite. Moi, perso, je préfère quand il y a un peu d'originalité dans ces génériques, quitte à en mettre un. Moi, je préfère qu'il n'y en ait pas en plus. Donc,
Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que même Steven Spielberg a l'air de penser que les Français sont bons en matière de générique parce qu'il avait fait appel à une équipe de Français pour faire celui de Catch Me If You Can. Il y a quelques années.
Qui est cité dans Watch
Voilà, mais qui était un générique plutôt sympathique, très BD presque. Mmh. Voilà, c'était une équipe de Français qui l'avait fait.
Mmh. Alors après, je ne me suis pas renseigné pour savoir qui. Effectivement, c'est des équipes spéciales qui travaillent sur ces génériques. Et je ne sais pas après si peut-être que.
Mais surtout quand ils sont en animation. Surtout quand ils sont en animation. Parce qu'après, le générique où il y a simplement les lettres qui apparaissent sur des images du film qui a démarré. Voilà.
Mais là aussi, je pense que c'est des graphistes, parce que ça a son importance, comment ça apparaît, quelle taille.
Oui, parfois plus des problèmes de typographie.
C'est assez riche, il y a plein d'exemples en tout cas sur ces deux sites que je viens de citer, alors je les redonne. C'est donc watchthetitles.com, là on voit les vidéos des génériques, et puis après les captures d'images, c'est agnès.com avec deux N et un Y. Alors, pour jouer un peu, cette fois-ci on est à la radio, donc on va jouer avec le son des génériques. On va commencer donc avec le son d'un générique. Alors Martin, est-ce un péplum ?
Oui, je pensais fortement au péplum, mais... Non, je ne sais pas.
Eh bien, c'est Irréversible de Gaspard Noé.
D'accord.
Voilà, qui commence comme ça, avec ses trompettes dissonantes. Voilà, donc qui est cité dans Watch the Titles. On passe au deuxième extrait. Jouez avec nous, chers auditeurs. Musique de Warshore.
Cronenberg peut-être.
Alors,
c'est Mulholland Drive ou...
Ah non, bah si c'est un Cronenberg.
Ah oui, pardon. Oui. Ouais.
Non, c'est Crash.
C'est Crash, d'accord.
C'est Crash qui commence comme ça. Avec
oui, en plus c'est Bad Elementi qui fait la musique de Mulholland Drive.
Oui.
Mais là, j'ai trouvé Cronenberg avec le nom de l'auteur.
Avec Howard Shore. On passe au troisième extrait. Là, tu devrais trouver.
Je vois pas du tout les 10 commandements. Non, par contre, lequel des deux
lequel, hey. Quel film de Léon.
Ah, c'est soit pour une première poignée de dollars, soit et pour quelques dollars de plus. Je dirais et pour quelques dollars de plus.
Alors c'est A Fistful of Dollars. Donc
ah non, c'est l'autre. C'est pour une poignée de dollars.
C'est pour une poignée de dollars. Voilà. Bien quand même, bien. Un demi-poids. On passe à un autre extrait.
Ah, ça c'est Fast and Furious, je reconnais tout de suite.
Générique, ça commence sur une route, on suit des lignes jaunes discontinues, on est dans la nuit. Et puis là, il y a une espèce de typo qui arrive comme ça, qui annonce le film.
Fast and Furious, j'ai dit.
Et là, c'est David Bowie. Stan Lynch.
Lost Highway.
Voilà, c'est le début de Lost Highway et c'est d'ailleurs aussi la fin, ça commence comme ça finit. Moi j'avoue que j'étais retourné le voir au cinéma rien que pour ce générique et cette fin, parce que je trouve qu'on rentrait dans quelque chose et on en sortait aussi de la même manière. Enfin, j'avais trouvé ça prodigieux, c'était même la première fois au cinéma que je sentais vraiment ça, enfin, comme une immersion dans...
Il y avait Terminator 2 quand même qui jouait avec les bandes blanches sur la route.
Ah.
Je crois que c'est le début de Terminator 2 ou la fin... Qui fonctionne aussi comme ça, avec une caméra ras du sol sur une route en travelling.
Mais il y a aussi le premier film de Soderbergh, Sexe, mensonge, bon. Vidéo, qui commence avec une caméra aussi sur les bandes. Mais la manière dont l'a fait David Lynch était relativement magistrale. Dernier extrait, mais là, c'est vraiment pour rire. Ouais, c'est trop facile.
Le nom de l'artiste, par contre... Henry Mancini, compositeur de musique de film.
Eh bien, on va te laisser le bénéfice du doute.
Ça nous laisse sans voix.
Tu dois avoir raison, mais non, mais je ne sais pas.
Henry Mancini, qui a composé la musique de La Panthère Rose. Ouais.
Voilà, mais c'est parce qu'en plus, tu étais calé dans les compositeurs de films, hein, que je t'ai fait faire ce test. Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous en avez trouvé quelques-uns. Je reviendrai sans doute la semaine prochaine avec d'autres exemples de ces génériques qui, selon moi, sont plutôt marquants. On va du coup faire une petite pause avec la bande originale de Gaggio Dio, qui est un film de Tony Gatliff. Tony Gatliff qui sera présent demain au Diagonal Capitole avec son dernier film, dernier long métrage, c'est Liberté. Alors, je crois que la séance est à 20.
C'est 19h50.
C'est 19h50. Mmh. Et donc en présence forcément du réalisateur, et après il sera là pour en parler. On fait la petite pause. Et bien voilà, donc demain vous pourrez voir Tony Gatliff en chair et en os suite à la projection de son dernier long métrage Liberté. Alors il y a un autre réalisateur que vous pourrez aussi voir cette semaine, toujours dans les murs du Diagonal, c'est Lies Salem. Lies Salem pour son film Mascarade, c'est dans le cadre du panorama du cinéma algérien. Alors ce film était déjà sorti l'an dernier. Alors j'en fais une petite chronique, enfin disons que je la recycle plutôt.
Allez, vas-y,
lâche-toi. Mais bon, c'était il y a longtemps. Alors, disons-le tout de suite, ça n'est pas un film 100% algérien. La production est franco-algérienne et largement française. Et en France, quand on demande à un réalisateur issu de l'immigration de faire un film, on lui demande de parler de l'immigration ou de son pays, comment il est un peu bancal, voire arriéré, etc. Il n'y a qu'à voir Kechiche ou Hammer Zamesh. Mais parlons donc de ce film. Déjà dire que Mascarade est une comédie, on rit volontiers. Mascarade ne parle pas du pouvoir algérien, ce n'est pas la mascarade de la réélection de Bouteflika, par exemple, ou du pacte civil qui blanchit tous les intégristes sanguinaires. De ça, on aurait du mal à en rire. Alors Mascarade, au pluriel, traite plutôt de la société algérienne et tant qu'à faire dans un petit bled dont on ne saura jamais où il est, mais dont on sait que les habitants ne connaissent Alger qu'en rêve. C'est la poussière, on s'ennuie ferme, on voit personne bosser, pas grand monde acheter non plus, ce qui est plutôt cohérent. Alors c'est l'histoire de Mounir, interprété par le réalisateur, un type un peu grande gueule, orgueilleux et qui aimerait quelqu'un, alors qu'il n'est que le jardinier du colonel, il ne cesse de baver sur le gros 4x4 du haut gradé. Il aimerait être quelqu'un, mais voilà, on se moque de lui déjà parce que sa femme lui en fait voir, mais surtout parce que sa sœur, qui vit avec eux, est atteinte d'une maladie qui la plonge parfois dans un sommeil inattendu et inopportun. Alors le village se moque d'elle et pense qu'il ne la mariera jamais. Du coup, lui, un soir d'ivresse, il crie à tout le monde qu'il va la marier à un riche homme d'affaires étranger. Et de quiproquo en quiproquo, le village va le croire et il va devenir quelqu'un. On le salue, on est gentil et ça, il aime, ça flatte son ego. Mais voilà, tout est faux. Le mariage, sa sœur Rim aimerait bien se marier, mais plutôt avec le meilleur ami de son frère, et elle n'ose pas en parler à Mounir. C'est le nœud du problème, c'est le film. Comment notre Mounir va s'en sortir et comment les mariés vont-ils pouvoir enfin s'aimer ? Ça part un peu dans tous les sens, il y a du loufoque, de bons personnages et effectivement une critique de l'hypocrisie de la société algérienne perdue entre aspiration à la modernité, désir de conserver la tradition ou la religion parfois à bon dos. À un moment, on se demande toujours pourquoi c'est le frère qui décide du mariage de sa sœur alors quand ça se rebelle, on souffle un peu. Mais tout est léger, pas une once de gravité là-dedans, les acteurs remplissent bien leur contrat, la plastique des deux amoureux est à mon sens bien trop mise en valeur, c'est un peu maladroit, ça veut dire regarder leur innocence, leur beauté, c'est trop injuste. À un moment, on ressent une baisse de rythme, une fois les ressorts de l'histoire et le mensonge posés, on a tendance à attendre une surprise qui ne vient pas. C'est juste Mounir qui comprend qu'il doit laisser partir sa sœur. Oui, c'est la seule réserve. Sinon, c'est un film plaisant et qui vaut un bon nombre de comédies françaises boursouflées de gags et situations improbables.
Tu penses à Protéger et Servir avec Cadmerade et Clovis Cornillac ?
Par exemple, ou celle, le dernier film avec Vincent Lagaffe.
Le Baltringue.
Oui, il y a force d'exemple.
Oui, je pense que ça vaut mille fois plus le détour.
Donc, séance unique ce samedi 6 à 17h30 au Diagonale, donc avec Lies Salem, le réalisateur, avec Rim Takoucht, qui est l'actrice principale, et le CMCAS Languedoc. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Parce que moi, je ne sais pas.
Je ne vais pas me lancer, non, je ne suis pas sûr.
On écoute un petit moment du film et justement, eh bien, c'est de la musique. Voilà, tu répètes ?
Oui, Julia qui s'occupe de la technique, c'est le comité d'entreprise de EDF ?
Exactement, en fait. C'est les activités sociales des agents EDF-GDF.
Voilà. Donc, ça veut dire que c'est notre ami, allez, on va dire, ça se dit souvent à la télévision, à la radio, notre ami Patrick Bedos qui animera cette séance. On en arrive maintenant aux événements, on a déjà un peu commencé.
Voilà, juste pour rappel, donc, dès demain, l'avant-première de Liberté de Tony Gatliff, c'est au Diago à 19h50, ce sera suivi d'un débat avec le réalisateur. Ensuite, samedi, vous avez toujours au Diago une projection de Ma vie sans pétrole de John Webster. Donc, c'est un document documentaire qui raconte un peu l'aventure d'une famille qui décide d'entamer une diète en CO2 en rompant avec ses habitudes et en ne consommant plus de produits issus du pétrole. Voilà, donc ce sera présenté par l'Agence locale de l'énergie Montpellier et le film sera suivi d'un débat avec l'ADEME, Météo France et une psychologue. Voilà, ça c'est...
Entre l'Agence locale de l'énergie et le comité d'entreprise d'EDF.
C'est... Voilà. Le tarif spécial, donc c'est soit 5 euros, soit carte d'abonnement.
4,20
euros. Et compagnie, et tous les tarifs en vigueur. Au Diagonal, à noter qu'il y aura une réduction pour les chômeurs et les étudiants sur présentation de la carte, ce sera 3 euros. Samedi, un peu plus tard dans l'après-midi, à 17h30, donc c'est Mascarade de l'IS Salem dont tu viens de nous parler. Dimanche 7 février pour les matinaux à 11h, donc dans le cadre de tous les dimanches, en fait, depuis quelques mois, le Gaumont Comédie propose une sorte de rétrospective totale de la filmographie de Hayao Miyazaki. Ce dimanche, ce sera Ponyo sur la falaise. Alors, par contre, ce sera en version française. C'est à 11h. Lundi, à 14h, vous aurez une ressortie d'un vieux film. Donc, c'est Les démons de la liberté de Jules Dassin dans le cadre de l'université du Tiers-Temps. Lundi, à 20h, vous aurez une projection de Tous en scène, une autre ressortie. Tous en scène de Vincente Minnelli, donc dans le cadre de la formation Exerce, organisée par le Centre chorégraphique national de Montpellier. Mardi à 20h, vous aurez une avant-première de Lovely Bones, le dernier film de Peter Jackson. Ça se déroulera au Gaumont Multiplex, par contre ce sera en version française. À noter que le film sort au Diago en version originale. Mardi 9 à 20h30, un deuxième événement dans le cadre des regards sur le cinéma algérien 2010, donc après Mascarade, vous aurez à Utopia une projection de Vivante de Saïd Ould Khalifa. Donc voilà, un autre film dans cette sélection, une séance qui sera présentée par l'actrice Samia Meziane. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine.
C'est déjà pas mal, hein. Il y a beaucoup de choses quand même, quasiment tous les jours.
Presque, oui, un événement par jour.
Y compris le dimanche matin, quoi. Voilà, ainsi s'achève Cinérama. On n'aura pas parlé du film des frères Cohen.
Du Baltringue.
Mais ça joue pas dans la même catégorie.
Non.
Et voilà, ben on se retrouve a priori la semaine prochaine. Quoique rien n'est sûr.
Rien n'est sûr.
En ces temps difficiles. À la fin du générique, vous pourrez entendre Sur mes lèvres, de film de Jacques Audiard, avec un long extrait, mais on a le temps aujourd'hui. Et puis on remercie Julia à la technique, et puis Bruno qui a débuté l'émission avec nous. Je te dis au revoir. C'était bien la semaine dernière.
Au revoir Vincent, au revoir à tous et à la semaine prochaine.
Je lis sur leurs lèvres.
Bon, allez, vous foutez ma gueule. Là.
Mais non, vous demandez, je vous réponds.
Et je veux dire, comme les...
Vous croyez que c'est pour faire quoi, ça? Pour faire joli?
Non, mais bon, je pensais que vous étiez juste un peu sourdin.
Oui, voilà. J'étais sourde, maintenant je suis juste un peu sourdin, comme vous dites.
Sourde.
Oui, sourde. Ça va, on va pas y passer l'après-midi.
Et alors là, par exemple, ils disent quoi, là?
Je résume, hein. Keller est en train de dire que je me suis pas mal débrouillée, que c'est une chance pour un cageux comme moi d'avoir trouvé un type comme vous. Et que si ça se trouve, je suis une affaire et qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Là, Keller vient de dire un truc, mais je crois que c'est clair.
Cinérama.
Mais eux, ils savent que vous...
Non.
Sur Divergence FM.
Bon. Ça va, vous avez assez mangé, on peut y aller, hein?
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14. Non,
le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.